Mes bien chers frères, c'est aujourd'hui le cinquième dimanche après Pâques, mais je voudrais utiliser comme trame de mon sermon la belle épître de Saint Jacques, qui a été choisie par l'Église pour l'épître du jour. Saint Jacques au chapitre 1er, versets 22 à 27. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Voilà ce que nous dit Saint Jacques. Mes bien-aimés, mettez en pratique la parole de Dieu et ne vous contentez pas de l'écouter en vous leurrant vous-même. Pourquoi dit-il cela? Pour comprendre ce que dit Saint Jacques, il faut tout simplement aller chercher le catéchisme. Lorsque le catéchisme nous pose la question, qu'est-ce qui est nécessaire pour être membre de l'Église catholique? Eh bien, il y a bien sûr les conditions que vous connaissez, le baptême, participer au même sacrement, reconnaître le pape et les autres pasteurs légitimes de l'Église, le pape comme vicaire de notre Seigneur Jésus-Christ, chargé de conserver le dépôt de la foi. Mais le pape, Saint Pie, dans ce catéchisme, rajoute une chose qui est tout à fait vraie, qui reprend exactement le texte de Saint Jacques, ou en tout cas son esprit, qu'il faut croire et professer la foi catholique. Et là, Saint Jacques dit la même chose. Mettez en pratique la parole de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas suffisant de croire. Le démon croit et tremble, dit Saint Jacques. Mais ça ne suffit pas de croire. Il faut la pratique de la foi. Et qu'est-ce que c'est que la pratique de la foi? La pratique de la foi, c'est tout simplement l'état de grâce. La pratique de la foi, c'est la vertu de charité. La foi sans la charité, c'est une foi morte. La foi sans la charité, c'est une foi informe. Il manque la forme de cette foi. C'est comme, si vous voulez, un corps sans âme. Un corps sans âme, c'est un corps qui n'est plus formé par une âme. C'est un corps qui est devenu un cadavre. De même, la foi sans la pratique de la foi, c'est-à-dire la foi sans la charité, c'est tout simplement une enveloppe de foi, un cadavre de foi. Donc ne vous écoutez, ne mettez en pratique, dit Saint Jacques, mettez en pratique la parole de Dieu. Il faut la foi et les œuvres de la foi. Les œuvres de la foi, c'est la charité. La première des œuvres de la foi consiste à vivre dans la charité, c'est-à-dire vivre en état de grâce. Alors, il faut relire ces paroles. C'est pour cela que je mets ces sermons une semaine en avance quand je peux, pour que justement vous ayez le temps d'écouter ce sermon et de vous préparer à la messe du dimanche. Celui, dit Saint Jacques, qui écoute la parole de Dieu sans la mettre en pratique, donc celui qui a la foi sans la charité, il ressemble à un homme qui regarde son visage dans un miroir. Il se regarde, s'en va et oublie aussitôt comme il était. Mais celui qui considère attentivement la loi parfaite, qui est la loi de la liberté, et qui s'y attache, n'écoutant pas pour oublier, mais passant à l'œuvre, celui-là trouvera son bonheur dans ce qu'il fait. C'est-à-dire que si j'ai la foi avec la charité, j'aurai la joie, j'aurai la vraie liberté, la loi parfaite de la loi de liberté. Je saurai utiliser les différents moyens qui sont mis à ma disposition par le bon Dieu pour atteindre la fin pour laquelle j'ai été créé. C'est ça la liberté. Mais si au contraire j'ai une foi imparfaite, j'ai une foi qui n'est plus formée par la vertu de charité, j'ai une foi qui est malade, qui est à moitié morte, moribonde, on pourrait dire, eh bien à ce moment-là, je n'aurai pas cette loi parfaite de la charité. Et j'aurai au contraire de cette paix que donne la charité, la paix et la joie, j'aurai cette tristesse, cette confusion. Celui qui a la charité en lui, il a immédiatement cette paix, cette joie, cet amour du beau, cet amour du vrai. Il a la paix, la joie, la lumière dans son âme et l'amour du vrai, l'amour du beau. Celui au contraire qui a une foi sans charité, donc une foi sans les œuvres, eh bien, il va voir tout de suite qu'il lui manque quelque chose parce qu'il aura dans son âme constamment ces sentiments de confusion, d'obscurité. C'est que ces sentiments d'agitation constante. Et bien sûr, l'amour du faux, l'amour du laid, l'amour des choses sales. Donc il faut demander au bon Dieu, mes bien chers frères, demandons au bon Dieu cette grâce de la charité, avoir une foi qui est mise en pratique, pas simplement avoir une foi qu'on garde dans sa poche avec le mouchoir par-dessus. Ce n'est pas par les paroles qu'on juge quelqu'un, c'est par les actions. Les actions qui suivent les paroles, ou qui suivent les pensées. pouvez prétendre avoir la foi, mais si vous n'avez pas la charité, votre foi est morte ou mourante. Vous pouvez prétendre être un ami de notre Seigneur Jésus-Christ, mais à votre absence de haine de l'erreur, on verra que vous n'êtes pas un véritable ami de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous pouvez prétendre être un ami de notre Seigneur Jésus-Christ, mais si vous aimez en même temps le monde, si vous aimez en même temps l'Église de Vatican II, ses pompes et ses œuvres, vous n'êtes pas un véritable ami de notre Seigneur Jésus-Christ, vous êtes un menteur. Alors il faut relire cette épître de Saint Jacques qui est assez forte. Saint Jacques sait ce qu'il dit. Il a bien raison. Donc si j'ai cette foi avec l'œuvre de la foi, c'est-à-dire avec la charité, je trouverai mon bonheur dans ce que je fais, dit Saint Jacques. Vous voulez avoir la vraie vie, vous voulez avoir le vrai bonheur, vous voulez avoir la paix, la paix, la lumière, la joie de notre Seigneur Jésus-Christ, les fruits du Saint-Esprit. Eh bien, ayez une foi pratique, ayez une foi qui est vivifiée par la vertu de charité. Confessez-vous régulièrement afin de vivre dans la vertu de charité. Vous pouvez croire tout ce que vous voulez, mais ça ne suffit pas, ce n'est pas par la foi qu'on va au ciel. Ça ne suffit pas. Encore une fois, le démon a la foi. Pas pour ça qu'il va au ciel. Beaucoup de gens ont la foi. Bon, je vois la plupart des Français qui sont nés autour des années 50-60, ils avaient tous à peu près la foi. Il leur manquait la pratique de la foi. Regardez les conséquences et les résultats que nous voyons aujourd'hui avec nos yeux. Et ensuite, Saint Jacques va justement expliquer les choses de façon pratique. Et voilà l'exemple qu'il donne. Écoutez bien. Parce qu'il parle d'un défaut, j'ai souvent dit cela, un défaut. Le défaut particulier des catholiques de la tradition et des célibataires, bien souvent, est péché contre la charité. Si quelqu'un croit, dit Saint Jacques, avoir de la piété et ne met pas un frein à sa langue, mais s'ennuie lui-même son cœur, sa piété est vaine. Donc qu'est-ce que nous demande Saint Jacques? Il nous dit, si vous avez la foi avec la charité, donc la foi avec la pratique de la foi, cela doit se voir parce que vous mettrez à ce moment-là plus aisément un frein à votre langue. Un frein à sa langue. Est-ce que vous avez un frein à votre langue? Ou est-ce que votre langue dit n'importe quoi sans être contrôlée avant de sortir de la bouche? Est-ce que votre langue va prononcer des tas de choses qui sortent de la bouche sans être filtrées justement par la raison, filtrées par la foi? La raison illuminée par la foi et la foi illuminée par la charité. Encore une fois, mes bien chers frères, il est bon de reprendre un petit peu notre catéchisme. Beaucoup, beaucoup des catholiques de tradition, malheureusement, ont ce problème au niveau de la charité, et ce problème est exacerbé évidemment par l'usage d'Internet, parce qu'il est tellement facile de faire passer sur les réseaux Internet des tas de bêtises, et si c'est très facile de mettre ces bêtises sur les réseaux Internet, il est beaucoup plus difficile de réparer ces dégâts, réparer ces bêtises. Donc quand Saint Jacques nous dit, si quelqu'un croit avoir de la piété, ne met pas un frein à sa langue, mais séduit lui-même son cœur, sa piété est vaine, en fait il parle ici du huitième commandement. Tu ne diras pas de faux témoignages, tu ne mentiras pas. Revenons à notre catéchisme. Que nous demande ce huitième commandement? Ce huitième commandement nous défend de déposer faussement en justice. Il nous défend encore la diffamation ou la médisance, la calomnie, la flatterie, le jugement et le soupçon téméraire et toutes sortes de mensonges. Faisons un examen de conscience, mes bien chers frères. Et n'oublions pas que ces fautes sont très souvent des fautes graves et presque tout le temps des fautes contre la vertu de justice. Et puisqu'elles sont des fautes contre la vertu de justice, la justice étant lésée, une réparation est nécessaire. La confession ne suffit pas. C'est expressément dit par Saint Pédis dans son catéchisme. Il pose la question pour celui qui a péché contre le huitième commandement, par exemple par médisance, en disant des choses vraies, mauvaises sur le prochain sans qu'il y ait une raison proportionnée. Celui qui est coupable de calomnie, de mensonge contre le prochain ou de jugement téméraire, de soupçon téméraire, voilà ce que dit Saint Pédis. Pour celui qui a péché contre le huitième commandement, donc tu ne mentiras pas. Il ne suffit pas qu'il s'en confesse. Il est obligé de rétracter ce qu'il a dit de calomnieux contre le prochain et réparer du mieux qu'il le peut les dommages qu'il lui a causés. Est-ce que je répare? J'ai remarqué que ces péchés sont des péchés auxquels la plupart des cédévacantistes, pas tous, mais très souvent, ces cédévacantistes ne pensent pas trop à les accuser. Je sais par exemple très pertinemment que telle ou telle personne, par exemple, a une langue de vipère, est toujours en train de critiquer, toujours en train de dire du mal des gens, et il s'en accuse jamais au confessionnal, par exemple, parce qu'il n'y pense pas. Ou quand il y pense, je suis obligé de lui dire, mais vous accusez ces fautes-là, mais vous comptez les réparer? Oh ben non. Qu'est-ce que vous avez fait pour réparer vos dernières calomnies? Qu'est-ce que vous avez fait pour réparer vos dernières médisances? Ah, mais ce que j'ai dit, monsieur l'abbé, c'était vrai. Oui, mais vous n'aviez pas le droit de le dire. Et si vous n'aviez pas le droit de le dire, vous avez péché contre la charité en diffusant des choses vraies contre le prochain que vous n'aviez pas le droit de dévoiler. Et Saint Pédis dit, vous devez réparer. Il faut rétracter ce que vous avez fait, ce qui a été dit de médisant, de calomnieux contre le prochain, pour réparer du mieux qu'on peut les dommages qui ont été causés, dit Saint Pédis. Est-ce que vous le faites? Est-ce que je le fais? C'est valable pour tout le monde, pour moi aussi. Et j'ai remarqué, c'est une chose qui m'a beaucoup, beaucoup frappé, parce que c'est très fréquent, hélas, dans la tradition, surtout dans la tradition sédévacantiste, je m'excuse de mettre les points sur les i, les barres sur les t, mais j'ai remarqué ça dans la tradition, surtout en France, où vraiment le péché traditionnel des Français de la tradition, c'est les péchés contre le 8e commandement. Hein. Eh bien, ils sont capables de dire n'importe quoi sur le prochain, vrai ou faux, avec raison ou sans raison, et quand ils n'ont pas de raison de le dire, du moment que ça a été dit, que ce qui a été dit est vrai, ils ne veulent jamais faire les réparations. Or, une médisance en matière grave contre le prochain, vous avez dévoilé une chose grave faite par le prochain sans une raison proportionnée, c'est une faute grave. C'est une faute grave contre le 8e commandement, et c'est une faute grave contre la justice qui nécessite une réparation. Est-ce que vous la faites, cette réparation? Est-ce que vous réparez? Et j'ai remarqué que la plupart des gens sont d'une discrétion violente pour réparer ces fautes-là. Voyez son catéchisme. La médisance, dit Saint Pédis, c'est un péché qui consiste à manifester sans un juste motif les péchés et les défauts d'autrui. Ça veut dire quoi, mes bien chers frères? En bon français, ça veut dire vous n'avez pas le droit de manifester les péchés ou les défauts d'autrui, péchés ou défauts d'autrui véritables, attention, la médisance n'est pas un mensonge. La médisance est consiste à dire du mal qui est vrai, du mal qui a été fait véritablement par la personne contre laquelle je médis, mais sans une raison proportionnée. Saint Pédis dit expressément, je n'ai pas le droit, sans un juste motif, de manifester les péchés et les défauts d'autrui. Si je l'ai fait, je dois réparer. C'est pas facile de réparer une médisance. Est-ce que j'ai dit vrai? Oui, mais vous n'avez pas le droit de dire. Donc vous êtes coupable d'un péché de médisance. Si c'est sur une matière grave, il y a faute grave. Parce qu'il y a connaissance, il y a consentement, il y a matière grave. Les trois conditions du péché mortel sont réunies, là, attention. Qu'est-ce que je dois faire? Réparer? Ah, je peux pas. Alors, je peux pas vous donner l'absolution, monsieur. Je n'ai pas le droit de donner l'absolution à un médisant qui refuse de réparer ses médisances. Ah, mais ce que j'ai dit est vrai, d'abord je ne peux pas le voir en peinture ce gars-là, donc il n'est pas question que je répare mes torts. Eh bien monsieur, il n'est pas question aussi que je vous donne l'absolution, il n'est pas question que vous approchiez du banc de communion aujourd'hui. Comment voulez-vous prétendre communier aujourd'hui si votre cœur est envahi par la haine, par la méchanceté, par la malhonnêteté? La calomnie, c'est encore plus grave. Un péché qui consiste, dit Saint-Pédis, à tromper quelqu'un en disant faussement du bien de lui ou d'une autre. Pardon. La calomnie, c'est un péché qui consiste à attribuer méchamment au prochain des fautes et des défauts qu'il n'a pas. Donc c'est un mensonge. La flatterie s'apparente aussi un petit peu à la calomnie. Saint Pédis donne cette définition dans son catéchisme, un péché qui consiste à tromper quelqu'un en disant faussement du bien de lui ou d'un autre dans le but d'en retirer quelque avantage. C'est très fréquent, dans les milieux professionnels entre autres. Jugement téméraire, c'est pareil. Jugement ou le soupçon téméraire, un péché qui consiste à mal juger ou à soupçonner le mal du prochain sans un juste motif. Si vous avez soupçonné le mal du prochain sans un juste motif, vous devez, même si c'est quelque chose qui est resté à l'intérieur de votre âme, vous devez l'accuser en confession. Et puis il faut toujours essayer de réparer dans la mesure du possible, ce qui n'est pas toujours facile. Pareil pour les mensonges. Je rappelle le catéchisme, le mensonge joyeux, le mensonge officieux, le mensonge pernicieux. Bon, le mensonge joyeux, le mensonge officieux, ne dépasse pas le péché véniel, c'est ce que dit expressément Saint Pédis. Quand le mensonge est joyeux ou officieux, dit-il, c'est un péché véniel. Le mensonge joyeux, c'est un mensonge dans lequel on ment par pure plaisanterie et sans faire de tort à personne. Bon, si tout le monde sait que c'est une blague, bon, il n'y a même pas de péché du tout. Le mensonge officieux est l'affirmation d'une chose fausse pour sa propre utilité ou celle d'un autre, mais sans qu'il y ait de préjudice pour personne. Ça reste un péché véniel, dit saint Pédice. Par contre, le mensonge pernicieux, l'affirmation d'une chose fausse qui fait tort au prochain, attention, c'est un péché mortel si le préjudice causé est grave. Combien de fois j'ai vu ça dans la tradition, des choses invraisemblables qui ont été racontées sur le prochain, et puis les personnes ne veulent pas réparer. Parce qu'ils ne veulent pas s'humilier pour réparer les calomnies, les médisances qu'ils ont provoquées chez les autres, ou qu'ils ont prononcées eux-mêmes. Donc, il faut faire attention. Le 8e commandement, dit saint Pédice, nous ordonne de dire, quand il le faut, la vérité, d'interpréter en bien, autant que nous le pouvons, les actions de notre prochain. Est-ce que vous et moi, mes bien chers frères, nous cherchons à interpréter en bien, autant que nous le pouvons, les actions de notre prochain? Ou est-ce qu'au contraire, on est toujours en train de trouver un moyen d'interpréter en mal tout ce qui est dit, tout ce qui est fait, tout ce qui est fait et tout ce qui paraît devant nous? Attention, mes bien chers frères, là encore, il y a beaucoup, beaucoup de réparations à faire. Et lorsque ces calomnies, ces médisances, ces jugements téméraires ont été placés sur Internet, n'oubliez pas qu'en quelques secondes, cela a fait trois fois le tour de la planète et c'est très difficile à réparer. Attention. Saint Jacques continue dans son épître. Il y en a des choses à dire sur cet épître. Donc, après avoir expliqué, si quelqu'un croit avoir de la piété, ne met pas un frein à sa langue, mais séduit lui-même son cœur, sa piété est vaine. C'est-à-dire que si je raconte n'importe quoi, si je pêche contre le prochain, contre la justice, par médisance, par calomnie, par jugement téméraire, ma piété est fausse, ma piété est vaine. Ce que je fais ne vaut plus rien devant Dieu parce que je suis un hypocrite. Voilà ce que dit Saint Jacques. Et ensuite, il termine en disant la piété pure et sans tache, aux yeux de Dieu notre Père, c'est de visiter les orphelins, les veuves, dans leur détresse, et de se préserver de la corruption de ce monde. Donc il y a un devoir grave, dit Saint Jacques, de se préserver de la corruption de ce monde. Est-ce que vous et moi, mes bien chers frères, nous faisons attention à ne pas laisser rentrer dans notre cœur les choses de ce monde? Est-ce que nous faisons attention de ne pas laisser rentrer dans nos familles, dans notre vie de tous les jours, les choses de ce monde sans que ce soit absolument nécessaire? Combien de péchés par omission, par exemple, sont faits avec les comment on appelle ça, les smartphones, les téléphones intelligents, tous ces écrans qui nous entourent de partout. Certes, certains sont nécessaires pour des raisons professionnelles ou des raisons familiales. Je veux bien, j'ai moi-même un ordinateur et je travaille tout le temps dessus pour préparer mes cours. C'est pas un péché. Mais attention, mes bien chers frères, il faut nous préserver de la corruption de ce monde. Je passe un temps considérable à regarder les choses qui n'ont aucune valeur pour mon âme, qui n'aident pas mon âme à se remonter vers le bon Dieu. Je perds mon temps. C'est un péché de perdre son temps. Le temps ne nous appartient pas, il appartient au bon Dieu. Est-ce que je fais attention à ne pas utiliser ce temps précieux que me donne le bon Dieu pour aller contre lui, contre le prochain? Le bon Dieu me demandera des comptes de toutes les petites choses que j'ai laissées faire. Toutes les pertes de temps, toutes les pertes de grâce, toutes les pertes d'énergie, toutes les pertes de liberté. Donc, faisons un examen de conscience, mes bien chers frères. L'esprit du monde, préserver la corruption de ce monde. C'est quoi la corruption de ce monde? Saint Jean répond à cette question. Il dit, le monde, c'est quoi? C'est la concupiscence des yeux, concupiscence de la chair et l'orgueil de la vie. Voilà ce qu'il dit, les trois concupiscences. Concupiscence des yeux, le désir de tout avoir. Concupiscence de la chair, le désir de tous les péchés d'impureté. Et l'orgueil. Comment on lutte contre ça? Eh bien, contre la concupiscence des yeux, l'esprit de pauvreté, nécessaire pour tout le monde. Contre la concupiscence de la chair, l'esprit de chasteté, nécessaire aussi pour tout le monde. Et contre l'orgueil, l'obéissance. Les anciens rajoutaient trois autres choses. Contre la concupiscence des yeux, l'aumône. Contre la concupiscence de la chair, le jeûne. Contre la concupiscence de l'orgueil, la prière. Alors mes bien chers frères, faisons un examen de conscience, vous et moi. Je vous dis, ceci valable pour moi. Faisons un examen de conscience. Qu'est-ce que je dois faire pour rattraper? Qu'est-ce que je dois faire pour réparer? Qu'est-ce que je dois faire pour être sûr que je mets en pratique la parole du bon Dieu? Que je ne me contente pas de l'écouter en me leurrant moi-même, comme dit Saint Jacques. Vous allez me dire, mais monsieur l'abbé, moi je demande toujours ça au bon Dieu, et puis le bon Dieu ne m'écoute pas. Ben, relisez l'épître de l'évangile de Saint Jean d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il vous dit? Si vous demandez quelque chose à mon Père en mon nom, il vous le donnera, dit notre Seigneur. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Demandons correctement. Demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira, dit notre Seigneur. Mais celui qui ne cherche pas, qui ne demande pas, qui ne frappe pas, il n'aura rien du tout. Alors, mes bien chers frères, avec l'arrivée de ces belles fêtes de la Pentecôte et la fête de l'Ascension, qui commence dans quelques jours, puis la fête de la Pentecôte, 10 jours après, demandons, mes bien chers frères, demandons ces grâces de préparer nos âmes, préparons nos âmes avec la grâce du bon Dieu, en multipliant surtout les pénitences pour couper justement toutes ces conséquences gravissimes de l'introduction dans nos âmes de la corruption du monde. Si je constate que dans mon âme, j'ai laissé rentrer des tas de choses qui n'ont pas à y être, eh bien, il faut que je coupe. Si ton doigt, dit notre Seigneur, si ta main, si ton pied droit, si ton œil sont pour toi les occasions de péché, coupe, jette tout loin. Il vaut mieux pour toi rentrer au ciel avec un seul œil, un seul pied, une seule main, plutôt que de tomber en enfer avec les deux yeux, les deux mains ou les deux pieds. À bon entendeur, salut. Donc attention à ça, mes bien chers frères. Peut-être qu'une bonne confession doit être préparée pour beaucoup d'entre nous avant la fête de l'Ascension, avant la fête de la Pentecôte. Préparons-nous. Demandons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ et n'oublions pas qu'à l'entrée du confessionnal, il y a quelqu'un qui attend. Hein. C'est quelqu'un qui attend pour nous aider à faire une bonne confession, c'est notre Sainte Vierge Marie. Elle est là. Son rôle, c'est de nous aider à faire des bonnes confessions. Alors, si nous ne savons pas très bien comment nous y prendre, si devant l'étendue du désastre, nous ne savons pas par quel bout commencer, passons par la très sainte Vierge Marie. Priez-la avant de vous confesser, mettez-la dans votre poche pendant la confession, elle vous aidera à faire une bonne confession. C'est son rôle. Son rôle, c'est de nous amener à notre Seigneur Jésus-Christ, nous amener à son divin Fils. C'est ce qu'elle a fait pendant la Passion, c'est ce qu'elle refait tous les jours, pendant que la Passion de l'Église se renouvelle. Alors, mes bien chers frères, utilisons ces temps magnifiques, ces temps de l'Ascension, ces temps des grâces du Saint-Esprit, des dons du Saint-Esprit. Demandons au bon Dieu la grâce de préparer nos âmes, d'enlever de nos âmes cette corruption du monde, les trois concupiscences, d'y mettre l'esprit de pauvreté, l'esprit de chasteté, l'esprit d'obéissance, afin qu'un jour nous puissions tous être réunis au ciel. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Amen.